Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de textes tirés des médias suivants. Circulaire IGA, Contact Costco et L'Inconvénient. Au programme, des idées pour manger plus de grains entiers, prévenir le zona et un rempart contre l'oubli. Bonne écoute.
Des idées pour manger plus de grains entiers. Un texte de IGA, paru le 16 février 2023 dans la circulaire. Dans la dernière version du Guide alimentaire canadien, on conseille de remplir le quart de votre assiette de grains entiers. Mais qui sont-ils et surtout comment les cuisiner? Voici 5 grains entiers à découvrir ainsi qu'une technique de cuisson pour chacun. Qu'est-ce qu'un grain entier? Il s'agit de toute la partie comestible d'une céréale, son, germe et endosperme. Ils sont riches en nutriments, notamment en fibres. On compte parmi les céréales l'avoine, les blés incluant l'épeautre, le camut, le maïs, le millet, y compris le teff, l'orge, mondé, le riz brun, le riz sauvage et le seigle. 5 grains entiers à découvrir. L'orge mondé, c'est quoi? Ce grain ovale et dodu a un goût plutôt neutre qui s'agence à plusieurs garnitures. Il s'agit de la plus ancienne céréale cultivée dans le monde. On en tire, entre autres, le malt, un des ingrédients de base de la bière. En cuisine, on en fait des ragoûts, des bases de salade, des soupes ou un plat d'accompagnement. La cuisson de base. Dans une casserole, couvrez l'orge d'eau ou de bouillon et portez à ébullition. 4 tasses de liquide pour 3 quarts de tasse d'orge mondée. Couvrez et laissez mijoter à feu doux environ 40 minutes ou jusqu'à ce que l'orge soit tendre et le bouillon absorbé. L'épeautre, c'est quoi? Cette céréale rustique de forme oblongue est une cousine éloignée du blé. Elle possède un goût de noisette. On trouve de l'épeautre en grains sur le marché, mais aussi en flocons et en farine. En cuisine. On la prête en salade ou en crumble pour ajouter du croquant à des plats. On se sert de la farine d'épeautre pour faire du pain et des muffins. La cuisson de base. Dans une casserole, portez de l'eau, de l'épeautre et du sel à ébullition, environ 3 tasses d'eau pour 1 tasse d'épeautre. Couvrez et laissez mijoter à feu doux environ 1 heure ou jusqu'à ce que le tiers des grains ait éclaté et que le reste de l'épeautre soit tendre. Le millet, c'est quoi? Ce grain rond, petit et jaunâtre, provient d'une plante herbacée. Au goût, on sent une légère pointe de maïs. En cuisine, faites-en un taboulé, un gratin ou un bol repas. Vous pouvez aussi en faire un plat d'accompagnement en pilaf. La cuisson de base, dans une casserole, portez à ébullition de l'eau, du millet et du sel. 1,5 tasse d'eau froide pour 1 tasse de millet décortiqué. Couvrez et laissez mijoter à feu doux environ 20 minutes ou jusqu'à ce que les grains de millet soient cuits, mais encore légèrement croquants sous la dent. Le sarrasin, c'est quoi? Ce grain fait partie de la même famille que la rhubarbe. On l'utilise aussi dans la fabrication de bières sans gluten et des nouilles soba. Son goût rappelle celui du riz sauvage. En cuisine, sa farine est l'ingrédient de la populaire galette de sarrasin et elle peut remplacer une partie de la farine de blé dans les crêpes, les biscuits et les pains. Entier, on en fait un pilaf ou des salades. La cuisson de base. Dans une casserole, portez à ébullition l'eau ou du bouillon, le sarrasin et le sel, 375 ml, 1,5 tasse d'eau ou de bouillon pour 200 g. 1 tasse de grains de sarrasin blanc rincés et égouttés. Couvrez et laissez mijoter de 15 à 20 minutes en remuant à quelques reprises ou jusqu'à ce que le liquide soit complètement évaporé et que le sarrasin soit tendre. Le quinoa, c'est quoi? Les grains sont blancs, rouges ou noirs, avec un goût de noisette également. Il s'agit d'une pseudo-céréale, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie de la même famille que les céréales, graminées, mais ces grains ont longtemps servi à préparer des aliments semblables à ceux faits avec des céréales. En cuisine, on en fait des salades, des accompagnements aromatisés ou encore des risottos. On peut aussi l'utiliser comme base pour faire des galettes de burger végétariens. On s'assure de bien rincer les grains avant de les cuire, pour enlever l'amertume des grains. La cuisson de base. Dans une casserole d'eau bouillante salée, faites cuire le quinoa de 12 à 15 minutes ou jusqu'à ce que le quinoa soit tendre, mais encore croquant et égoutté. La conservation des grains entiers. Les grains se conservent de 3 à 5 jours au réfrigérateur. Vous pouvez doubler la quantité de grains à cuire pour en garder des portions pour les repas à venir. Ils peuvent servir de base à une salade ou comme plat d'accompagnement. C'était des idées pour manger plus de grains entiers. Un texte de IGA, paru le 16 février 2023 dans la circulaire.
Prévenir le zona, comment réduire les risques de contracter ce douloureux virus, un texte de Johan Ellis, paru dans Contact Costco en mars 2023. Quand Alison Evers, une mère active de 54 ans qui vit à Halifax en Nouvelle-Écosse, a ressenti une douleur aiguë dans le dos, elle a d'abord pensé s'être claqué un muscle. La douleur était intense, surtout la nuit, raconte Madame Evers. Après une semaine de souffrance, je suis allée à une clinique sans rendez-vous, certaine que j'avais une blessure au dos. Le médecin a vu une petite éruption cutanée sur ma poitrine et déclaré aussitôt « Vous avez le zona ». Toute personne ayant eu la varicelle est à risque de développer des symptômes ou des complications du zona. Justin Bieber a fait les grands titres lorsqu'il a annulé sa tournée en raison du syndrome de Ramsey-Hunt. Il a révélé souffrir d'une paralysie partielle de son visage et d'une éruption cutanée, toutes deux causées par le même virus que celui qui provoque le zona et la varicelle. Près d'un Canadien sur trois développera une forme de zona au cours de sa vie et la gravité du zona augmente après 50 ans, selon le Guide canadien d'immunisation. En fait, 95% des adultes canadiens de plus de 50 ans ont déjà eu la varicelle et sont porteurs du virus varicelle zona. Ce dernier peut se réactiver ou se déclencher sous forme de douleurs névralgiques et de zona à tout moment, mais surtout en période de stress ou de faiblesse immunitaire. Les Canadiens dans la cinquantaine ou plus âgés qui ont déjà eu la varicelle sont particulièrement à risque. La douleur névralgique causée par le zona peut survenir en tout temps, n'importe où sur le corps, y compris le visage, la bouche, le torse et les yeux. Le zona est causé par la réactivation du virus de la varicelle que beaucoup de Canadiens attrapent dans leur vie. Ils sont à risque de développer un zona, surtout en vieillissant, explique la docteure Yinka Akindeko, médecin de famille à Halifax. Après la varicelle, le virus demeure latent dans certains aires du corps. Il peut rester dormant pour toujours ou réapparaître en zona. Une fois réactivé, le virus se manifeste d'abord par des symptômes semblables à la grippe avec de la fièvre, des maux de tête, puis des douleurs intenses, généralement d'un côté du corps, et quelques jours plus tard, une éruption cutanée. La docteure Marla Shapiro, médecin de famille et professeur agrégé à l'Université de Toronto, explique que le zona est une éruption qui provoque des cloques rouges douloureuses souvent sur la poitrine ou le cou. Il se manifeste généralement le long d'un dermatome, une région innervée, d'un côté du corps. Il n'existe pas de remède contre le zona. La guérison dure généralement de 3 à 5 semaines, mais certains doivent patienter plusieurs mois. Un médecin peut prescrire des analgésiques ou suggérer des compresses froides ou des lotions. Des médicaments antiviraux sont parfois prescrits pour aider à soulager les symptômes et réduire les dommages aux nerfs. Le risque de développer un zona augmente en vieillissant. À partir de 85 ans, il grimpe à 50%, indique la docteure Akin Deko. Elle conseille fortement aux gens de plus de 50 ans de se faire vacciner. Ceux qui n'ont jamais eu la varicelle doivent être prudents. La transmission se fait par contact direct avec le liquide des cloques. Le risque d'infection persiste jusqu'à ce que l'éruption disparaisse. Madame Evers s'est rétablie et a repris ses habitudes. Elle a pris rendez-vous pour se faire vacciner contre le zona et espère que d'autres tireront des leçons de sa douloureuse expérience. C'était « Prévenir le zona, comment réduire les risques de contracter ce douloureux virus », un texte de Joanne Ellis, paru dans Contact Costco en mars 2023.
Un rempart contre l'oubli. Un texte de Mauricio Segura, paru à l'été 2022 dans le numéro 89 de la revue L'Inconvénient. Le décès de Régine Robin en février 2021 m'a incité à replonger dans son œuvre. Nous oublions parfois pourquoi nous ne fréquentons plus un écrivain que nous estimons. J'ai retrouvé avec plaisir la prose de Robin qui m'a toujours paru vive, intelligente, prime sautière même, tout en constatant un changement. Maintenant qu'elle me parle de l'au-delà, sa voix que j'entends au fil de ma lecture, comme c'est le cas pour tout auteur que j'ai connu, est pourvue d'intonations plus graves et plus sages. On dira que c'est l'avantage des écrivains morts, ils s'adressent à nous avec une autorité plus affirmée. Régine Robin était une touche-à-tout qui n'hésitait pas à plonger dans des sujets très divers. Mémoire collective, histoire du marxisme, histoire des livres, histoire et configuration des villes, romans migrants, autobiographie, cyberfiction, Shoah, judéité, réalisme socialiste, etc., embrassant des disciplines variées. Histoire, philosophie, sociologie, littérature, linguistique, sciences politiques, et se servant de grilles d'analyse, analyse du discours, sociologie, de la littérature, psychanalyse, histoire des idées, entre autres, qu'elle combinait souvent, si bien que plusieurs de ses livres donnent une impression de virtuosité. Je pense entre autres au « Cheval blanc » de Lénine, paru en 1979, ou à Berlin Chantier, paru en 2001. S'il y a un axe de recherche dans lequel elle excellait et qui constitue pour moi le fil rouge de son œuvre, c'est bien l'exploration des rapports complexes entre mémoire, histoire et roman. Ces lampes qu'on a oublié d'éteindre, paru en 2019. Son dernier ouvrage publié consacré à l'œuvre de Patrick Modiano offre une sorte de synthèse de la réflexion qu'elle a amorcée avec le roman « Mémoriel », paru en 1989, et qu'on peut résumer ainsi. Que peut le roman face au kaléidoscope de la mémoire et de l'histoire? Pour Robin, quand le romancier se tourne vers le passé, il ne défriche pas seulement le terrain réservé aux historiens. Il débroussaille aussi le territoire plus vaste de la mémoire collective. Le romancier ne se penche pas uniquement sur les grands événements historiques ou sur des phénomènes sociaux du passé. il examine aussi l'histoire nationale, qui se confond parfois avec l'histoire savante, ainsi que l'histoire culturelle, à savoir toute représentation du passé produite par des documents audiovisuels ou écrits, de fiction ou documentaire. Bref, toute parole ou image que celle-ci présente des croyances, des stéréotypes ou des comptes rendus scientifiques rigoureux. Une grande partie de l'objet d'étude du romancier est donc constituée de tout ce que l'historien ignore généralement. À cela s'ajoute un point crucial. Selon Robin, il y a roman mémoriel quand un texte de fiction explore la mémoire collective et l'histoire familiale, cette dernière entendue comme une représentation fantasmée des liens filiaux, comme une réorganisation imaginaire de ces rapports. On le sait, l'histoire familiale est un puits sans fond pour explorer le passé, pour réactiver des images mémorielles auxquelles on n'arrive pas toujours à donner un sens. Il est tout naturel que les romanciers l'investissent, et ils le font d'ailleurs abondamment. En relisant l'œuvre de Patrick Modiano, écrivain avec lequel elle partage des origines juives et une fascination pour l'occupation, Robin en arrive à une réponse similaire à celle qu'elle donnait 30 ans plus tôt dans le roman mémoriel quant au rôle du roman envers le passé. Il ne peut en rendre compte que par bribes, terme que l'autrice emploie fréquemment pour désigner des fragments, des bouts de phrases, des images floues, des impressions fugaces que le narrateur, dans l'univers de Modiano, voudra vérifier au cours d'une enquête qui se termine généralement en queue de poisson, tant la mémoire est un terrain glissant. Robin laisse entendre que le roman peut, mais elle ajoute aussitôt qu'il est le genre littéraire le mieux outillé pour s'atteler à la tâche avec sa propension à mêler subjectivité et objectivité, fiction et réel, et son penchant pour l'hybridité des discours et des genres littéraires. De plus, comme c'est une composante de leur travail, les romanciers présentent forcément des récits plus sophistiqués que ceux des historiens. Les liens de causalité y sont bien plus subtils ou ténus. La plupart des écrivains évitent de présenter des discours globaux, totalisants. Au contraire, ils privilégient d'emblée des points de vue divergents, voire marginaux. Ils n'adhèrent pas à un discours de certitude comme le fait une certaine prose scientifique. Enfin, les bons romanciers ne cherchent pas à clôturer le sens, loin de là. C'est la polysémie qui est valorisée. Il est vrai que, depuis les écrits marquants de Michel de Certeau, de Paul Ricoeur, de Hayden White sur l'historiographie, une remise en question de cette façon d'écrire l'histoire a eu lieu chez certains historiens. Mais il est tout aussi vrai qu'une majorité d'historiographes restent assujettis à cette vision de leur discipline. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime lire Robin. Peu d'écrivains défendent aussi bien la légitimité du roman. En cette ère où les terrains investis par le roman rétrécissent comme peau de chagrin, pris d'assaut qu'ils sont par les séries télé, l'étude psychologique, le traité sociologique, la fiction documentaire, l'essai, pour ne donner que quelques exemples, la lecture de ces ouvrages nous rassure quant aux vertus de la prose romanesque. Vous écoutez « Un rempart contre l'oubli », un texte de Mauricio Segura, paru à l'été 2022 dans le numéro 89 de la revue « L'Inconvénient ». Quiconque a lu un roman de Patrick Modiano sait que plus le narrateur fouille une question qui a trait à l'histoire, plus elle se dérobe à lui. On peut même avancer qu'un récit de Modiano est moins une enquête historique qu'une prise de conscience de la difficulté d'explorer le passé, ainsi qu'un inventaire des questions qui surgissent au cours de la recherche. Le narrateur découvre finalement peu d'informations, ce qui peut dérouter certains lecteurs. C'est que Modiano ne traite pas le passé à la manière d'un journaliste ou d'un historien. Les vérités factuelles ne l'intéressent pas. Il cherche surtout à rendre compte d'un certain climat, en particulier celui qui sévissait sous l'occupation, plus précisément le climat qu'il imagine être celui de cette période, puisqu'il est né en 1945 et n'a donc pas connu celle-ci. De fait, en lisant Modiano, on devine que l'auteur réalise un fantasme en se plongeant dans une époque étouffante suscitant l'angoisse, comme le décrit justement Robin. Or, des événements historiques connus, ayant eu lieu notamment pendant l'occupation, sont fréquemment convoqués dans les romans de Modiano. Mais ils sont neutralisés, pour ainsi dire, par une série d'événements et d'incidents inventés que vit le protagoniste, de telle manière que l'histoire ne constitue habituellement qu'une toile de fond. Aussi, des personnages réels ayant marqué cette période, dont Modiano change l'identité, sans doute pour conserver une liberté d'invention, côtoie-t-il des personnages fictifs, comme c'est le cas dans les romans historiques, ce qui ne veut pas dire pour autant que Modiano écrive ce type de roman, puisque ses récits ne visent pas à éclairer une période historique. De plus, ses protagonistes font notoirement preuve d'ambiguïté au sujet de leurs convictions politiques et idéologiques, juifs antisémites, résistants qui travaillent aussi pour la Gestapo, etc. On peut difficilement lire ces romans pour en apprendre sur une période donnée. On le voit bien, l'histoire est résolument mise au service de la narration. Ainsi, que peut le roman face à l'histoire? Si l'on en croit Modiano, lu par Robin, il peut évoquer une période dans le but de spéculer, de lancer des hypothèses quant à des micro-récits historiques. Il peut établir l'inventaire de tout ce qui a été oublié sur une époque et que les historiens passent d'ordinaire sous silence, d'où la fascination de Modiano pour des détails, comme les numéros de téléphone, les marques de voiture, les noms de rue, les vêtements portés, les affiches. De manière plus fondamentale, le roman et le récit peuvent s'atteler à ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire suivre le parcours d'un personnage dans le cadre d'une investigation sur soi, rue des boutiques obscures, livret de famille, un pédigree, sur une figure paternelle, les boulevards de ceinture, sur un personnage ambigu, la place de l'Étoile, la ronde de nuit, ou encore sur une femme disparue, dimanche doux, voyage de noces, dans le café de la jeunesse perdue, Dora Bruder, encre sympathique, afin de dévoiler des vérités universelles sur fond de travail de deuil, affliction qu'éprouvent la plupart de ses protagonistes, enquêteurs, et qui explique pourquoi tant de ces personnages s'apparentent à des spectres, personnes qui font l'objet de l'enquête. Dans un beau passage cité par Robin et tiré du discours de réception du prix Nobel prononcé par Modiano, ce dernier avance que Marcel Proust vivait dans une société encore stable, lui permettant de faire ressurgir le passé dans ses moindres détails et d'offrir à ses lecteurs un tableau vivant. Depuis, le monde a changé selon lui. Aujourd'hui, la mémoire est beaucoup moins sûre d'elle-même. Elle doit lutter sans cesse contre l'amnésie et contre l'oubli. C'est vrai. Quel contraste, n'est-ce pas, entre le récit proustien à la phrase si ample et si riche en nuances, capable de décrire sur plusieurs pages l'effet d'un phrasé musical sur la conscience du narrateur, et la narration de Modiano, à la prose froide, digne de notes prises sur une fiche, comme le narrateur d'un pédigree décrit lui-même son écriture, qui empile maladivement des archives hétéroclites au sujet d'une personne disparue dans le but d'en extraire un peu de sens. Il me semble que Modiano attire notre attention sur un aspect capital de la mémoire aujourd'hui. Qu'est-ce qui cause l'instabilité que nous traversons? S'il est vrai que de nos jours le plancher se dérobe sous nos pieds quand nous tentons de nous souvenir, cela tient en grande partie à notre gestion du passé, qui cultive l'illusion de tout garder et génère une multiplication quasi infinie de représentations. Contrairement à Proust, nous sommes bel et bien plongés dans l'ère de la mémoire saturée, selon l'expression et l'ouvrage paru en 2003 de Régine Robin. Comme le protagoniste de Funès ou La Mémoire, la nouvelle de Jorge Luis Borges, nous souffrons d'hypermnésie. C'est-à-dire que, bien que nous soyons munis d'outils médiatiques et archivistiques à la mémoire quasi infaillible, nous peinons à réfléchir à nos vies. Car penser, c'est oublier des différences, c'est généraliser, abstraire. Nous n'arrivons plus à trier, à hiérarchiser nos pensées, submergés que nous sommes par une masse perpétuelle d'images, de stimuli et de paroles. Par un renversement ironique, le système qui est le nôtre, avec son projet utopique de tout conserver et de tout patrimonialiser, avec son penchant pour les représentations kitsch du passé, sa propension à parler du passé sans regard critique et sa manie de renvoyer dos à dos les belligérants d'un conflit historique, ce qui ne peut mener qu'à un relativisme ingénu, est devenu le principal vecteur de notre amnésie collective. Dans ce contexte, le roman, genre apte à cultiver le doute, les errances et l'incomplétude, et qui marche sur les traces du passé pour en faire ressurgir des lambeaux oubliés, trouve contre toute attente une pertinence renouvelée. C'était « Un rempart contre l'oubli », un texte de Mauricio Segura, paru à l'été 2022 dans le numéro 89 de la revue L'Inconvénient.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, Hélène Lamarche à la lecture, Diane Métaillé et Evelyne Séverin à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.